Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Gaëlle Obiegli. Vers 19h45, le son du jour, Prove It To You, de Brittany Howard. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir dans un petit village de l'Aveyron, chez Simone, 87 ans, qui bénéficie du service d'art à domicile, un programme mis en place par l'association Derrière le Hublot. Le tout est réalisé par Margot Page, avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir Gaëlle Obiegli.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que vous venez de publier « Sans valeur » chez Bayard Éditions dans la collection Littérature intérieure. Alors bien sûr parler de ce livre-là, mais aussi de revenir sur certains autres de vos textes pour voir comment votre pratique a évolué. Essayer de voir un peu quels sont les thèmes qui reviennent sous votre plume. Avant cela, première chose, savoir ce qui vous a conduit à devenir autrice. Alors, on sait peu de choses sur vous, très peu sur votre enfance, si ce n'est que vous avez grandi dans les mornes plaines de la Beauce, synonyme d'ennui, un ennui qui vous amène à non seulement à lire et à relire un gros livre de contes de Perrault, mais, ai-je lu, à apprendre à lire vous-même avec ce livre, est-ce vrai ?
Oui, j'ai effectivement lu et relu ce livre de contes pendant des années. Et j'ai appris à lire avec ce livre, j'ai appris à lire avant l'école primaire. Mais ma première expérience de lecture s'est passée à l'école maternelle. Et ça s'est très mal passé, en fait. J'ai pris le langage en grippe parce que on nous a fait apprendre... Il y avait un poisson qui était dessiné et punaisé sur un tableau, enfin accroché avec... c'était un poisson en feutrine, et l'institutrice le faisait parler. Donc il y avait des messages dans les bulles, comme une bande dessinée, et on devait interpréter le message du poisson. Et moi, je n'arrivais pas du tout à lier les lettres. Je les reconnaissais, mais à l'époque, je devais avoir 4 ans. Je reconnaissais les lettres, mais je n'arrivais pas à les lier. Et donc, j'ai pris le langage en grippe, mais en même temps, je voulais absolument savoir lire. J'étais stimulée par cette difficulté, et c'est grâce à ce gros livre de contes que j'ai appris à lire.
Alors, les contes, on va en parler, mais en 98, sur France Culture, l'autrice et éditrice Jacqueline Deroux évoquait justement ces contes pour enfants. On va écouter cet extrait de cet entretien.
Je crois que l'enfance a ça de merveilleux. Quand on lit, on a notre imagination qui fonctionne en même temps. Il n'y a pas cette part de rationnel. Il n'y a pas ce recul. On est dans l'histoire, on est l'histoire. On est Riquet à la houppe qui est très laid. Et puis tout à coup, on est la princesse qui est très belle et qui est très bête et qui veut devenir intelligente. Et on est tous les personnages à la fois. Et ça donne une densité au conte. Et la magie, elle vient de là, quand elle s'adresse aux enfants. Et plus tard, quand on est adulte, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect rationnel, on essaye d'analyser et tout ça. Il n'y a plus cette part instinctive et immédiate qu'on peut avoir quand on lit et qu'on est enfant. Et ça fait très drôle de relire quelque chose qui nous a marqué, comme ça, en étant adulte, et de voir que le souvenir qui nous revient, c'est le conte, bien sûr, mais c'est surtout le merveilleux. Qui entourait ce conte. C'est peut-être pas aussi tout à fait le conte lui-même, mais la part de merveilleux qu'on a réussi à y mettre soi-même étant enfant.
Est-ce que vous avez parfois, vous, relu les contes de votre enfance, Gaëlle Obiegli, ce gros livre dont vous parliez?
Oui, je les ai relus. Et il y en a un qui m'a marqué. C'est un conte de Perrault qui n'est pas très long, qui s'appelle Les Fées. Et celui-ci, je l'ai relu plusieurs fois. Pourtant, normalement, quand on relit des livres qu'on a lus enfant, enfin, quand on est enfant, on relit souvent parce que on veut comprendre le sens. On a un besoin d'élucidation. Et celui-ci, Les Fées, c'est un conte dont le sens m'est apparu tout de suite. Mais j'étais pas sûre d'avoir bien compris de quoi il s'agissait. Mais j'avais vraiment besoin de le relire comme pour le mémoriser, sachant qu'il allait m'accompagner toujours.
Le sens a changé ?
Non, le sens n'a jamais changé. C'est un conte où il y a... c'est une famille de paysans pauvres qui ont deux filles. Et ils envoient leur première fille chercher de l'eau à la fontaine. Et quand elle arrive à la fontaine, il y a une vieille femme qui vient lui demander de l'aide. Elle l'aide à remplir sa cruche. Et pour la récompenser, la vieille femme lui dit « Je suis une fée et tu es tellement gentille qu'à partir de maintenant, quand tu ouvriras la bouche pour parler... » Des perles et des papillons, des trésors sortiront de ta bouche. Donc elle rentre chez elle et les parents sont émerveillés. Ils envoient la deuxième fille, la seconde fille. Et la seconde fille, elle est à la fontaine, elle voit quelqu'un approcher. Mais c'est une femme habillée de manière fastueuse qui lui demande de manière autoritaire de l'aide. Et elle l'envoie paître. Sauf que c'est la même fée qui lui jette un sort inverse à celui qu'elle a donné à la première fille. C'est un conte qui est bref, qui est très efficace et qui, pour moi, se rapprochait aussi de la mythologie grecque que j'aimais tellement, avec ces apparitions, quoi, ces êtres qui apparaissent et qui peuvent avoir n'importe quelle forme et auxquels on doit l'hospitalité.
Quand je vous entends raconter ça, je pense à beaucoup de choses que vous avez pu écrire, Gaëlle Obiegli. On va parler de ces apparitions, transformations, disparitions. L'enfance, on y reste quand même un peu, parce que la vôtre est tout de même particulière. À 12 ans, on vous a envoyé dans un grand lycée de Saint-Germain-en-Laye, parce que visiblement, vous étiez... Alors, trop en avance ou trop différente de vos camarades. Comment vous vivez cette situation?
J'avais 14 ans.
14?
Oui. Mais j'étais très... J'étais plus mature que les autres enfants, qui d'ailleurs ne m'acceptaient pas. Et j'étais en revanche aimée des adultes. Et comme je voulais apprendre le russe, les professeurs ont trouvé une école pour moi à Saint-Germain-en-Laye, un lycée où on enseignait des langues rares, bon, l'hébreu, le chinois, le grec, le latin, bien sûr, le russe. Enfin, il y avait beaucoup de langues. Et donc, j'ai appris le russe.
Mais vous étiez bien, là ?
Oui, à l'internat, j'étais très bien. Les premiers mois ont été très durs. Mais en fait, ça a été un changement radical. Et c'est là que j'ai noué des amitiés très fortes avec des filles. Ouais, c'était bien parce que on parlait beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses grâce aux autres élèves. Et moi, je venais d'un village et il y avait quasiment rien. Il y avait très peu de livres. Je lisais beaucoup. Je lisais tout ce que je trouvais. Et mes parents me laissaient lire tout ce que je voulais. Donc, j'ai lu vraiment toutes sortes de choses. Et notamment Dostoïevski, quand j'avais 12 ans, justement. Et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre le russe. Mais vous voyez, j'avais des lectures qui ne correspondaient pas du tout à mon âge.
Et puis, voilà. Et puis, alors, je ne sais pas à quel âge vous aviez, vous allez nous préciser, mais que vous êtes trompé dans la liste de vos fournitures scolaires une année, que vous deviez acheter un petit cahier à grand carreau et vous achetez un grand cahier à petit carreau. Alors comme vous le rappelez d'ailleurs dans le nouveau livre Sans Valeur, vous avez le souci de ne pas gâcher le papier, c'était déjà le cas à l'époque, donc vous avez dit il faut que je fasse quelque chose avec ce grand cahier, Gaëlle Obiegli. Alors vous aviez quel âge?
Là j'avais 13 ans.
13 ans, c'était... donc vous avez dit j'ai un grand cahier, il faut que j'écrive un grand roman.
Ouais, enfin, j'avais ce grand cahier et c'est surtout que je m'ennuyais beaucoup pendant le cours d'histoire. Et donc, pendant que la prof faisait le cours d'histoire, moi, j'utilisais mon grand cahier pour ne pas le gâcher et pour ne pas gâcher mon temps non plus. Et j'ai commencé à écrire un gros roman, mais je ne suis pas allée très loin. Mais quand même.
Il y a eu un début d'écriture, de toute façon.
Ah oui, j'ai quand même écrit pas mal de pages, et puis je faisais ça sérieusement, et elle devait croire que je recopiais tout ce qu'elle disait, mais j'inventais une histoire.
Et puis alors, pour suivre un tout petit peu votre parcours, avant d'arriver aux premières publications, Gaëlle Obiegli, les années 90, alors qu'ils sont un peu nimbés de mystère, parce que alors... On trouve certaines informations, vous entamez des études d'histoire de l'art, mais je ne sais pas jusqu'où. Ensuite, il y a une rencontre lors d'un festival de poésie américaine à Amsterdam avec Ira Cohen, ce qui vous incite à aller voir ce qui se passe du côté de New York. Ira Cohen, poète, éditeur, photographe, réalisateur. Vous avez séjourné longtemps à New York?
Pendant plusieurs années, je faisais des allers-retours. Ça a duré à peu près 3 ans.
Et vous faisiez quoi là-bas?
Rien. Mais oui, pendant les années 90, j'ai quasiment rien fait. J'ai commencé des études d'histoire de l'art à Paris 4, à la Sorbonne. Pour tout vous dire, je séchais les cours d'anglais. Et on était deux à sécher les cours d'anglais. Et avec l'autre personne, on attendait la fin du cours pour récupérer les polycopiés, enfin les cours, et pour faire des photocopies, des cours d'anglais, mais on lisait des poètes, enfin on lisait des trucs anglais. Et un jour, cet ami, enfin au début on n'était pas amis, mais on a sympathisé comme ça, dans la marge, elle m'a dit qu'on devrait aller à Amsterdam parce qu'il y avait un rassemblement de poètes américains, dont un avec lequel elle avait un début de correspondance, qui s'appelle Gérard Malanga, et qui est poète et photographe, et qui était très lié à Warhol et à la Factory, et qui nous a incité à venir. Donc on est allé là-bas en autobus, on n'avait pas un sou, on ne savait pas où dormir, ils nous ont hébergés, et de là, à un moment, au bout de quelques jours, ils nous ont dit « Mais pourquoi vous ne viendriez pas à New York avec nous ?» On a dit « Ok ». Et on est partis, quoi, toutes les deux.
Bon, quelques allers-retours plus tard, il y a un retour quand même en France, et il va y avoir la rédaction du premier roman publié, au titre merveilleux, « Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique », qui paraîtra en 2000, chez Gallimard, l'Arpenteur. Dans quelles circonstances, ou à quel moment, qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit ce texte-là, Gaëlle Obiegli?
Ça faisait longtemps que j'écrivais. J'ai commencé à écrire quand j'avais 13 ans, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, à l'internat, j'écrivais quotidiennement mon journal et des histoires. Quand j'étais à New York, j'écrivais aussi beaucoup, mais surtout des poèmes. Et un jour, j'ai pris un boulot. Pendant longtemps, pendant très longtemps, j'ai rien fait. Et puis j'étais une mauvaise étudiante et je voulais rien faire, je voulais pas travailler. Et un jour, j'ai pris un travail. Et la mort dans l'âme. Et c'était un boulot d'hôtesse. Et j'ai écrit une première phrase. Et j'ai continué. Et en même temps, j'avais repris des études. J'étais étudiante en russe et on traduisait La mort d'Ivan Illich de Tolstoï. J'écrivais aussi mon livre En marge. Donc ça s'est fait comme ça en fait. C'est cette comment dire, la contrainte du travail, la contrainte du cours m'ont poussé à écrire, à avoir une écriture suivie. Vraiment, pas de petits textes, je retrouvais mon texte chaque jour. Et voilà. Et puis, arrivé à un certain point, je suis allée chez Gallimard avec mon tas de feuilles et je l'ai déposé à l'attention de Gérard Bourgadier, qui avait été l'éditeur de Louis Galafert, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et je voulais lui montrer, je voulais qu'il me dise ce qu'il en pensait. Et il a voulu le publier tout de suite. Voilà.
Grand éditeur, Gérard Bourgadier, qui a été chez De Noël également. Oui. Écrire pendant que vous êtes censé faire autre chose, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver. Ce travail d'hôtesse, on va le retrouver dans d'autres textes. Ce premier texte publié nous entraîne en Russie. Alors, il faut dire qu'il y a un de vos ancêtres qui est venu de Pologne. Et on verra qu'il y avait un travail intéressant par rapport à ce nouveau livre Sans valeur. Mais là, il s'agissait pour la narratrice d'aller en Russie voir son père sur son lit de mort. Puis il y a cette vision de son père enfant, ce qui fait écho plus tard à Jean de Beauce, le troisième texte publié en 2003, où cette fois c'est avec quelqu'un qui pourrait être votre mère enfant qu'on va circuler dans le texte. Au début de l'écriture de ces livres, Gaël Omigui, est-ce qu'il y a des visions, ou est-ce que ce serait plutôt des questions? Qu'est-ce qu'il y avait avant moi?
Non, le premier livre, c'est vraiment, ça naît d'une vision. Ça naît d'une vision. Qui vient à la fois de la littérature russe, que j'ai lu beaucoup, et c'était aussi, c'est un roman où j'avais besoin de mettre mon origine. C'est une origine fictive, en même temps, elle n'est pas totalement fictive parce que mon origine littéraire, si je peux dire, se trouve en Russie. La littérature russe a été vraiment très très importante pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai placé le premier livre que j'ai écrit. Il se passe sur les bords de la Neva.
Et pour Jean de Beauce?
Jean de Beauce, c'est un territoire que je connais très bien parce que c'est là que j'ai grandi. J'ai toujours été très, très, très intriguée par ce paysage et par la population. C'est un peu désertique, la Beauce. Et c'est morne, c'est laid. Et pourtant, disons que j'avais besoin de le raconter, de le formuler, de le décrire pour l'aimer. Parce qu'en réalité, je n'aimais pas du tout cette campagne. J'étais pas bien là. Et c'est grâce au langage et à la formulation que j'ai pu que je l'ai accepté et que je l'ai aimé.
Alors Jean de Beauce, c'est donc votre troisième livre, Gaël Omigli, c'est le premier à porter l'inscription roman sur sa couverture, une notion avec laquelle vous n'êtes pas forcément en accord, on va en parler, mais avant d'en parler, on va écouter Annie Ernaux sur France Culture en 2002, c'était au micro de Geneviève Brisac.
J'étais victime, bien entendu, de cette idée que maintenant, on se doutait bien que les armoires vides étaient autobiographique. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous savez, ces fameuses phrases qui tuent. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous n'allez pas, je l'entends encore, est-ce que vous n'allez pas passer au roman? Voilà. Comme si tout ce que je faisais était inférieur au roman, comme si il n'y avait que le roman qui soit de la littérature, comme s'il n'y avait pas de salut, en quelque sorte, en dehors du roman. Et évidemment, là, on est plein dans l'idée reçue, parce que c'est le type exploration on va dire pour aller vite, autobiographique, mais bon, c'est quelque chose qui existe depuis Rousseau et qui se
même depuis Saint-Augustin, d'ailleurs.
On va dire, oui, Saint-Augustin. Bon, il y a eu des périodes de moindre production dans ce domaine, mais avec des textes et des recherches. Bon, Breton, que je sache, n'a jamais écrit d'entrée Breton de roman. Regardez ce qu'a fait Michel Léris. Il n'y a pas de roman là-dedans. Enfin, bon, peut-être un roman suraliste, Aurora. Oui, enfin, c'est parce qu'il a fait de mieux. Bon. C'est une autre forme d'écriture où le travail est peut-être plus important même que dans le roman.
Alors dans ces formes d'investigation autobiographique, le travail est plus important que dans le roman. Diane Arnaud, est-ce que vous êtes en accord avec ce propos, Gaëlle Aubiegli?
Plus important, tout dépend du sens qu'on accorde au mot important. Je pense que oui, c'est plus important dans le sens où ça a plus de sens que le roman. Moi aussi, au départ, j'ai écrit des romans pour aller vers des formes romanesques, pour me détacher de plus en plus de ça. Mais c'était aussi parce que, pour faire sérieux, quoi. Parce que... Et même, je me souviens que, enfant, la première fois que j'ai lu un livre sur la couverture duquel il était écrit roman, j'avais l'impression d'être devenu quelqu'un d'important. Mmh. Parce que je lisais un roman. Bon, mais j'ai fait un certain parcours depuis ça.
Mais pour autant, alors, si on parle d'autres textes que vous avez écrits, d'autres livres, en 2007, il y avait eu ce livre « La nature », dans lequel votre héroïne est une femme, article aussi indéfini que le personnage, qui permet donc beaucoup de variations, beaucoup d'identité. Mais on pourrait dire que ça rejouait différemment l'énumération de faune, le livre précédent, qui associait des animaux à des personnes, pour aller vite, en des très courts texte, mais cette idée aussi, cette notion de liste, de catalogue, de tentative d'épuisement, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible?
Non, pas tellement, mais pour La Nature, c'est un livre qui a son origine dans un texte raté, et que je... Enfin, voilà, il était vraiment, vraiment raté, mais je l'ai quand même gardé. Et une nuit, j'ai trouvé la manière. J'ai trouvé de quelle manière j'allais le déconstruire. Parce que je voulais pas le détruire, je voulais le déconstruire. Et j'ai trouvé cette façon de, effectivement, comme vous dites, de dénumérer. C'est-à-dire que ce personnage qui qui parcourait le roman raté, qui s'appelait Mon cœur d'ailleurs, je l'ai démultiplié en une quantité de, non pas de personnages, mais de rôles. C'est-à-dire que c'est une femme qui endosse le plus de rôles possibles, les rôles féminins qui sont ceux de la société occidentale.
Avant de poursuivre, on va nous rapprocher de votre nouveau livre, votre choix musical. Alors, il s'est porté sur une chanson de Neil Young qui s'appelle « Heart of Gold ». Pourquoi ce choix, Gaëlle Aubiegli?
En 2014-2015, j'étais à Rome pendant un an, à la Villa Médicis. Et un jour, c'est pas très poétique, mais j'étais en train de regarder du linge qui tournait dans une machine à laver à hublot et dans des pensées macabres. Et tout à coup, j'ai entendu cette chanson que je connaissais déjà, mais qui est là, arrivée comme si elle descendait du ciel. Et ça a vraiment illuminé mon... non seulement ma journée, mais mon projet littéraire auquel j'étais en train d'écrire un livre qui était assez gluant. Et Et ben, grâce à cette chanson, tout à coup, il y a eu une percée, quoi. Ça a amené une transparence.
On écoute Heart of Gold. Et maintenant, je verrai une machine à laver à hublot en écoutant cette chanson grâce à vous, Gaëlle Aubiegli. Mais bon, quand ça se passe à la Villa Médicis, évidemment, ça prend une saveur particulière. Mais vous en parlez de cette villa et c'est important parce que ce nouveau livre, Sans valeur, peut se lire comme le troisième volet, alors trilogie, je ne sais pas, on verra, qui aurait débuté avec N'être personne, poursuivi avec Totalement inconnu, prolongé aujourd'hui avec Sans valeur. Au départ, donc il y a cette année à la Villa Médicis que vous évoquiez, avec ce projet gluant, si je reprends vos termes, que vous ne mènerez pas à son terme parce que vous en avez trop parlé. C'est le problème de la Villa Médicis, c'est qu'on a des bons camarades et qu'on peut discuter. Et donc, ça assèche le projet, ça enlève l'influx de l'écrire. Vous en avez trop parlé,
ouais,
c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est, il s'est dissipé. Dans l'oralité, dans la présentation, et c'est devenu un sujet de conversation. Mais j'ai pris une quantité de notes. Hein. Si je mettais bout à bout toutes mes notes, il y aurait un volume, mais pas un livre.
Oui, c'est évidemment pas la même chose. Donc le livre suivant nous permettra de retrouver une première fois une hôtesse d'accueil qui se retrouve enfermée dans les toilettes du bureau de son entreprise, de l'immeuble où elle travaille. Elle est là le temps d'un week-end et elle va, heureusement elle a un stylo, heureusement il y a du papier toilette, heureusement elle peut écrire, et il y aura encore une fois une traversée des âges dans ce livre-là, quelque chose qui se déroule comme ce, ce papier toilette aussi. Mais vous avez un rapport au temps très singulier, ça va aussi nous renvoyer à ce nouveau livre avec la question des archives, des objets, et on peut sans doute aussi évoquer peut-être dès à présent, vous y revenez dans Sans Valeurs, ce musée des valeurs sentimentales que vous avez fondé avec Francesca Alberti et Stéphanie Favre. Quel est le principe de son fonctionnement?
Alors, on nous contacte pour nous confier un objet. Les gens, donc on donne un rendez-vous et la personne vient sans son objet. Et c'est un entretien qui dure entre 20 et 30 minutes. On écoute attentivement la personne nous présenter l'objet. Il faut le décrire. Mais nous, on n'en a pas. Comme l'objet n'est pas là, chacun se fait sa propre représentation. Et ensuite, il faut aussi nous parler de la valeur sentimentale de cet objet. Et c'est toujours c'est la valeur sentimentale qui crée un problème, parce que quand la personne veut se débarrasser de l'objet, c'est bon, il y a de multiples raisons, mais elle ne peut pas, parce que c'est un objet, ce genre d'objet, ce sont des objets qui ont muté, qui dépassent leurs conditions d'objet, et c'est comme, enfin, c'est des fétiches en fait, ils sont reliés à quelque chose d'immatériel, ils ont une transcendance. Alors nous, ensuite, on passe une ou deux semaines à réfléchir à ce qu'on a entendu, on en discute et on accepte ou pas l'objet. Parce que parfois, on ne peut pas l'accepter parce qu'on ne sait pas comment on va le conserver, mais aussi parce que parfois, on n'a pas été convaincu par la valeur sentimentale.
La nécessité.
Oui. Mmh. Et si on accepte, il y a... deux ou trois séances au cours desquelles on va parler de tout ce qui entoure la possession de cet objet. Comment il est entré dans la vie de la personne, toutes les ramifications. Et au bout de ces entretiens, qui sont parfois très longs, la personne nous confie l'objet et elle signe une décharge. C'est-à-dire qu'elle s'engage à ne pas vouloir le récupérer, mais elle a quand même le droit de dire voilà, il y a des restrictions, j'aimerais que l'objet soit conservé dans telle et telle condition, il peut y avoir des choses comme je ne veux pas qu'il soit exposé dans tel genre d'endroit, etc.
Quel est le dernier objet que vous avez accepté?
Un nœud papillon. Et donc, alors voilà, après, moi, je m'occupe du procès-verbal. J'écris un récit très fidèle à la réalité, à partir de ce que la personne a raconté. Et Francesca Alberti, qui est historienne de l'art, s'occupe de l'objet. L'objet devient une espèce d'objet d'art. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de son aspect matériel, de sa conservation, du catalogage. Et de temps en temps, on présente ces objets. On a des ouvertures du musée des valeurs sentimentales. Et Stéphanie Fabre, qui est architecte, s'occupe de ces présentations, de la mise en espace. Et voilà.
Juste une question un peu pratique, mais comment est-ce qu'on vous contacte?
Ça, c'est...
Le bouche à oreille, les contacts.
On ne communique pas. Okay. C'est vraiment le bouche à oreille.
Voilà. Si vous avez un objet à confier au musée des valeurs sentimentales, bon, débrouillez-vous. Donc, il y a eu Totalement Inconnu, le livre suivant qui était un monologue, pris en charge encore une fois par une hôtesse d'accueil. Encore un rapport au temps et à l'espace très souple, on va dire. Un texte dans lequel on avance à mesure qu'il avance lui-même, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette parole qui nous entraîne. Vous dites que les phrases vous arrivent souvent à vélo, Gaël Obiegli. C'était le cas aussi pour Totalement Inconnu. C'est quelque chose qui... Parce qu'il avance comme vous à vélo. Enfin, il y a quelque chose qui semble tout à fait en raccord.
Les phrases m'arrivent souvent quand je suis en mouvement et effectivement sur le vélo. Et c'est des... Ce qui m'arrive, c'est... Et souvent les livres naissent de ça. C'est que je travaille beaucoup avec, à partir de l'imprévisible, à partir du hasard, à partir de ce qui est donné, mais vraiment dans un sens très littéral. Mmh. Et mon travail, ça consiste à faire de l'or, si possible. Ça consiste à étoiler le réel, mais je ne vais rien chercher. J'ai pas vraiment de... J'aime pas l'idée de projet, de démarche. C'est vraiment ce qui...
Ça vous arrive.
Ce qui vient. C'est ce qui se présente. Et souvent, les phrases se présentent à des moments qui sont... Où j'ai pas la possibilité d'écrire, mais il faut que je trouve le moyen de les recueillir. Alors, et la contrainte est très importante aussi pour moi.
On va voir qu'il y en a une dans ce nouveau livre, Sans valeur, mais il y a quand même la question lancinante, pourquoi écrire ? Qu'est-ce qui pousse à cet acte-là ? Vous parlez de votre graphomanie dans Sans valeur. Avant de vous poser la question, une archive en 1989, Émile Cioran confie ses doutes dans un entretien qui est demeuré inédit, mais qui est conservé à l'INA, donc on en écoute cet extrait.
J'ai toujours cru, ça c'est mon côté naïf, j'ai toujours cru dans ce que j'ai écrit, parce que ça c'est pas bien, ça, c'était en contradiction avec ma vision des choses, mais en fait tant pis, c'est comme ça, je me suis dit, il faut pas tricher, mais au fond dans l'absolu, qu'est-ce que c'est, si on triche, qu'est-ce que c'est tout revient au même, c'est... Mais la conscience du néant, on peut avoir cette conscience, mais malgré tout, on ne peut pas en tirer toutes les conséquences. Par exemple, il est évident que si on a la conscience du néant, c'est absurde d'écrire un livre. C'est ridicule, même. Mais pourquoi éprouver quoi? Pour qui? Pourquoi? Mais il y a des nécessités intérieures qui échappent à cette vision, qui c'est une autre nature, c'est plus intime, c'est plus mystérieux, c'est irrationnel. Parce que la conscience du néant n'est compatible avec rien, avec aucun geste. Avec, il n'y a aucune, aussi l'idée de fidélité, quoi que ce soit, tout fout le camp. Mais ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, n'est-ce pas, c'est ce qu'on pourrait employer des grands mots. C'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. C'est un peu plus ça.
Là, c'est Émile Cioran. Et pour Gaëlle Aubiegli, alors, qu'est-ce qui vous pousse à écrire ?
J'ai besoin de comprendre. Et j'ai besoin d'écrire pour connaître ma pensée. Et c'est mon seul accès... À la pensée, la mienne, mais aussi c'est une voie vers le monde pour comprendre. Et puis, oui, enfin, comme le dit Cioran, il y a une vitalité dans le geste d'écrire. C'est la rapidité, l'énergie, c'est presque une activité sportive.
Et dans Totalement Inconnu, il y a cette phrase, les livres ne tiennent pas leurs promesses, c'est pour ça qu'on les fout dehors, on n'en veut plus tout à coup, on les donne, on les met sur le trottoir, alors on est transporté du coup dans ce nouveau livre qui débute par le fait que la narratrice, en allant faire son footing, découvre un petit tas d'ordures, décide de le rapporter chez elle pour en faire une sorte de tri sélectif. Alors, est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est une archive? Elle-même, elle est en plein déménagement, donc elle doit faire aussi le tri dans ses propres affaires. Mais vous avez dit aussi, ou écrit, dans Sans valeur, publier un écrit, c'est le jeter dans la poubelle publique. Donc, publier, c'est aussi se débarrasser d'un encombrant, pour vous?
Oui. J'ai pris conscience de ça en écrivant Sans valeur. C'est que comment se fait-il que ces choses, cette matière intérieure. J'ai besoin de la formuler pour l'affronter. Et ensuite, je publie pas tout, hein, je publie très peu par rapport à ce que j'écris. Mais disons que pour moi, ça ressemble au processus de déchets. C'est-à-dire qu'on fait sortir quelque chose de soi, comme on fait sortir le déchet de sa maison. Et voilà, et j'avais pas pensé à ça avant d'écrire Sans valeur.
Mais tout à l'heure, vous parliez d'élucidation. Moi, je me demandais quand même si terminer un livre, pour vous, ce serait pas tant répondre à une question que d'avoir compris la question que le livre posait.
Oui, c'est ça. C'est que il arrive un moment où je sais que tout ce que je vais écrire à partir de tel point, ce sera du commentaire sur ce que j'ai déjà écrit. Donc, comme je cherche l'économie, je m'arrête dès que c'est compris, quoi.
Je ne vais pas divulgâcher ce qui se passe, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans Sans valeur, ce tas d'ordures va virer vers une forme d'obsession, parce que en effet, en cherchant dedans, elle se perd aussi.
Oui, elle, c'est moi. Parce que ce livre, c'est pas une fiction, c'est un.
J'ai dit la narratrice pour vous laisser le dire vous-même.
C'est totalement autobiographique. Je me perds avec le. Je m'immisce à tel point dans le petit tas d'ordures, dans les documents qui le constituent, que je me vois. Je me vois dans ces documents. Alors, je ne sais pas si c'est si je me perds dedans ou si je me trouve. Mais ce sont deux choses qui se.
C'est le miroir.
Voilà. Ouais.
Dernière question, avec une réponse rapide. Si on faisait un tas de vos 12 livres publiés, Gaëlle Obiegli, vous feriez quoi comme tri?
Je garderai la nature.
Et Sans valeur, si je puis me permettre,
oui,
c'est nouveau.
Sans valeur.
C'est le dernier arrivé. Il vient de paraître chez Bayard Édition. C'est dans la collection Littérature intérieure. Merci, Gaëlle Obiegli, d'avoir été notre invitée.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Il y a 5 ans, Brittany Howard s'évadait en solo après avoir officié comme chanteuse et guitariste du groupe de rock Alabama Shakes. Son album Jaime, passé légèrement inaperçu en France, avait joui d'une belle popularité aux États-Unis. Au confluent de la soul, du funk, du blues et du gospel, cet album embrassait avec poigne son histoire personnelle marquée par la mort de sa sœur ou encore par l'expérience vécue du racisme dans le sud des États-Unis, dont elle est originaire. Son nouvel album, What Now, est tout aussi riche que son prédécesseur. Placé sous le signe de l'amour, l'album tient une bonne dose de funk et ne va pas sans rappeler les belles heures de Prince. Vocaliste captivante, Brittany Howard y insuffle ce qu'il faut d'émotivité et d'énergie, une énergie qui explose véritablement sur le titre « Prove it to you », morceau sentimental qui devrait affoler les dance floors. C'était Prove It to You de Brittany Howard, extrait de son nouvel album What Now?
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours en Aveyron avec Fred Sancerre, le directeur de Derrière le Hublot, cette scène conventionnée sans lieu mais avec beaucoup d'idées et de projets. Et aujourd'hui, nous allons vivre ensemble le service d'art à domicile qui se déploie partout sur le territoire. Alors le principe est simple, un artiste, une auxiliaire de vie et une personne qui reçoit chez elle. Alors en route vers chez Simone, 87 ans et beaucoup d'histoires à partager.
Fred, vous pouvez nous dire où on est là maintenant ?
Géographiquement, on est à Villeneuve d'Aveyron, on est donc sur le Cosse, les Cosses de Villeneuve. Et on est à Villeneuve parce qu'on s'est donné rendez-vous avec Aurore qui travaille derrière l'Hublot, avec Garnews qui va être avec nous pour le service d'art à domicile, et parce qu'on va retrouver aussi Daniel qui est auxiliaire de vie. Et on va se rendre chez Simone Roux, qui est dans un petit village à côté, dans un village qui s'appelle Salle-Courbatier.
Alors avant de les rejoindre, là, je vois que vous avez une boîte qui ressemble à une boîte à outils un peu, non ? Une boîte toute rouge sur la table, il y a quoi dedans ?
Alors c'est un peu ça, c'est la boîte à outils des artistes qui se déplacent sur le service d'art à domicile. Dedans, l'idée, c'est qu'ils ont à la fois toutes les infos dont ils ont besoin, et puis pour le pendant et la préparation, vous avez un carnet de liaison qui va se suivre d'artiste en artiste, où chacun a mis ben, qu'est-ce que c'est, à quoi il faut penser, comment ça marche. Quelqu'un qui dit peut-être qu'il s'agit de trouver le moment opportun pour créer un acte artistique, éphémère, unique. Le moment ne peut naître, à mon sens, que de la rencontre. Voilà. Et donc, il se passe ce cahier-là, et de service d'art à domicile à service d'art à domicile. Ça donne des pistes aux artistes, ça leur explique qu'on a rencontré tel jour, telle personne. Attention, cette personne-là, elle aime ça. Ou attention, elle parle de ça. Ça peut donner des tuyaux, des indices. Voilà.
Et là, vous la découvrez juste, cette boîte ?
Non, j'avais déjà eu la chance de d'œuvrer avec l'an passé quand on avait fait les prémices du travail de design du service d'art à domicile. Et donc je suis ravi de la retrouver en fait.
Et elle vous est utile ?
Oui, oui, en tout cas elle est utile parce qu'elle est pleine de belles idées aussi. C'est presque une boîte à idées. Effectivement, on y écrit des choses. Et puis cette idée de la photo, c'est une super idée. Voilà, donc on a notre petit Polaroid où on va esquisser ce jeu photographique avec les aidants et les personnes accompagnantes.
Alors là, on va retrouver Simone dans quelques instants. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire chez Simone ou pas du tout ?
Alors, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de lui emmener, mais je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Donc, ça va dépendre d'elle aussi, et effectivement, de l'instant et de l'impromptu et du moment. Et voilà, quoi.
Et vous, Daniel, vous êtes auxiliaire de vie depuis combien de temps ?
34 ans. Très contente de ce métier. Il me plaît de plus en plus.
Ma voiture, elle est là. Ouais, on va monter avec vous. Alors là, on vient de monter dans votre voiture. Vous nous emmenez chez Simone pour un service d'art à domicile.
Oui, voilà, tout à fait. Simone qui habite à Salle-Courbatier, chez qui j'interviens depuis 4-5 ans. Elle a eu des problèmes de santé et puis elle a eu besoin voilà, d'une aide.
Et depuis combien de temps vous travaillez avec Derrière le Hublot et le service d'art à domicile?
Ah, ça fait 2 ans. C'est la 3e intervention là, qu'on fait là.
Parce que l'auxiliaire de vie dans ce projet, c'est vraiment, ça fait partie de... j'allais dire, c'est un trio, quoi. Il y a l'artiste qui vient, la personne chez qui on va, et puis l'auxiliaire de vie qui fait le lien.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et les trois sont utiles, quoi.
Et vous l'avez préparé, par exemple, Simone, à notre venue?
Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, bon, il faut les mettre en confiance. Déjà, on va chez eux. Ils sont quand même un peu intimidés.
Ah, c'est pas rien d'accueillir des artistes chez soi.
Mais oui, ils sont timides aussi. Ils sont timides, ils sont réservés. Puis bon, c'est dans leur intimité aussi. Ça peut être un guitariste, comme un conteur, comme quelqu'un qui fait un dessin. Enfin voilà,
il y a oui, il y a tout type d'artistes.
Voilà, c'est ça, oui.
Et là, aujourd'hui, on est avec un comédien.
Voilà, c'est parfait.
Voilà, bon, on va voir ce qui va se passer.
Christophe. Voilà, c'est ici, chez Simone. Je sais pas si vous... Attendez.
Moi, je vais réussir à sortir.
Ouais.
D'accord.
Je vais rentrer.
Bonjour, madame.
Bonjour, pardon, excusez-moi.
Simone. Marie, oui. Enchantée. Voilà. Merci de nous accueillir.
Ah, d'accord.
Chez vous. Merci beaucoup, merci.
Rentrez.
Essayez de ne pas vous mettre trop de terre partout. Hein.
Passez par à là. La salle à manger, oui, parce que c'est la plus grande. C'est la cuisine.
Je suis venu vous voir pour vous rencontrer, pour vous dire des choses aussi.
Allez et alors, savoir. Qu'est-ce que vous allez me dire?
Moi, je voulais vous parler de l'art à domicile, parce que j'avais envie de vous poser la question. Vous en aviez vu déjà des artistes qui étaient venus vous voir, non?
Oui.
Vous vous souvenez de qui c'était?
J'ai quelques photos.
Oui.
Ah, ils vous ont écrit?
Oui.
Ouais.
Elle a eu des...
La classe.
C'est là, non?
Et puis disons que vous avez été gâtée, Simone.
Ah oui, puis il y a un gentil. Tiens, j'ai plus la lettre, mais si, il doit y avoir un derrière. Regardez. Vous pouvez la lire.
C'est pas confidentiel.
Non.
Chère Simone, je garde un bon souvenir de ce moment passé avec vous. Le twist, le charleston et les noix. Merci pour les souvenirs partagés. Je vous embrasse, Cécile.
Eh oui.
Vous avez dansé le twist avec le charleston. Alors, les noix, quel genre de danse?
Ah oui, un moment, je voulais vous en faire, je ne les ai pas fait. Fais des noix caramélisées.
Mazette. J'ai amené la parable fabuleuse, le légendaire Jacques Prévert. Vous connaissez Jacques Prévert?
Un peu.
Je le connais pas très bien non plus, hein, mais je vous rassure. Mais j'ai pu penser que c'était chouette. J'ai dit, tiens, c'est une autre façon. Vous aimez les histoires en plus. Vous les racontez bien, puis.
Oui, j'aime bien les histoires. J'en ai tellement raconté.
Oui.
Les histoires à mes petits louveteaux, à mes enfants, mes petits-enfants.
Et alors, l'histoire de la pêche à la baleine, vous la connaissez?
Ah oui.
À la pêche à la baleine. À la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui ne m'a rien fait, papa? Va là, pépé, va là pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table et dit d'une voix lamentable « Dépêchez-vous de la dépecer. Et pourquoi donc que je dépecerai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. » Puis il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Et voilà. Voilà Prosper qui prépare les faire-part. La mère qui prend le deuil de son pauvre mari et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit, soudain elle s'écrie « Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez « La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. »
Ah, t'es bien. Eh Eh oui.
Ouais, c'est bien.
Ah si, mais il y a des choses, des fois, ça vous prend aux tripes, comme on dit. Pour les personnes seules, je peux vous dire que ça aide. Hein.
Oui.
Parce que moi, ce soir, je repenserai tout ça. Hein.
Ouais.
Je refais ma vie de l'autre côté.
Ouais, mais c'est vrai que c'est une belle histoire, une belle initiative.
Ah oui.
Quand le soir on y repense, vous n'êtes pas la seule, parce que nous aussi.
Mais oui, c'est sûr, on refait un peu sa journée, truc. Puis je me rappellerai de vous. Hein.
Et vous. Il y a un petit protocole où on joue au Polaroid à trois.
Donc là, c'est Daniel qui prend le premier Polaroid.
Allez, un, deux, trois.
De Christophe et Simone.
Ah mais j'ai pas fini.
Non. Alors qu'est-ce qu'on fait, Daniel? On regarde qui, quoi?
Moi.
Je crois que celle-là
est réussie. Elle est bien, elle est réussie.
Et alors là, vous savez quoi, Simone? C'est vous qui faites la photo maintenant.
Non, je ne sais pas faire.
Si, regarde. Vous la tenez, vous regardez dans le viseur ici. Vous nous regardez, Daniel et moi, et vous faites la photo. Vous appuyez sur le rouge, voilà. Si vous avez.
Alors,
on se met où? C'est vous la photographe?
C'est toi.
C'est vous qui décidez la photo.
Alors attends, vous savez qu'il faut que je regarde dans le viseur.
Voilà.
Oh.
Et c'est vous qui dites comment on doit se mettre.
On est bien.
Derrière le hublot n'a certes pas de lieu de représentation, mais ce nomadisme permet de créer d'autres formes d'art, des formes mobiles, accessibles, et qui renversent le rapport à la culture. Ici, les artistes vont vers les habitants, les œuvres s'adressent à des anonymes sur le chemin de Saint-Jacques ou à des personnes qui ne se déplacent plus. L'art irrigue la terre et les artistes prennent part pleinement à une belle mission de service public.
Suite du Grand Tour lundi, Marie Sorbier, où serez-vous?
Lundi, Arnaud, je serai à Rodez pour fêter les 10 ans du Musée Soulages.
Merci Marie, à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche. Et un merci tout particulier à Bérénice Sourceau-Egaray qui termine ce soir son stage dans l'équipe d'affaires culturelles. On lui souhaite tout le meilleur et donc de la revoir très vite dans les murs de cette maison.